Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Julie d'Instagram. Julie, on ne se connaît pas des tonnes, on se connaît un petit peu digitalement.
Un petit peu.
On se connaît un petit peu. Et il y a Mélanie aussi qui est là.
Salut.
Salut Mel.
Mélanie, on la connaît bien. Mélanie, on la connaît depuis longtemps. mais Julie, on la connaît un peu moins bien. Donc, tu peux rappeler ce que tu fais chez Instagram ?
Tout à fait. Déjà, bonjour.
Mais bonjour.
Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Julie Pellet. Je suis en charge du développement de la marque Instagram pour la France et l'Europe du Sud. Donc, je m'occupe de la France, bien entendu, ouais. Mais aussi de l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Donc, voilà. Cool. C'est une belle région.
Et moi, j'ai la question à 100 balles pour toi qui est, c'est quoi la meilleure stratégie pour une marque sur Instagram, sachant que ça a quand même beaucoup bougé ces derniers temps, parce qu'il y a l'arrivée des stories, il y a l'arrivée de plein de nouvelles applications entre les filtres, les sondages, etc. Et puis il y a le feed, et quelque part, à mon avis, pour les marques, il y a cette complexité entre les photos que je place, au moins elles restent, tandis que les stories, ça s'en va toutes les 24 heures. Qu'est-ce qu'elles sont censées faire, les marques, aujourd'hui, sur cette plateforme ?
Alors, ça tombe bien parce que c'est vraiment la question principale que j'ai de la part des marques. Aujourd'hui, en fait, la stratégie sur Instagram, il faut se dire qu'en fait, comment une marque peut utiliser toutes les mêmes fonctionnalités que la communauté utilise, puisqu'aujourd'hui, on a 800 millions de personnes qui sont sur Instagram chaque mois. En France, j'aimerais. Ça voudrait dire qu'il va falloir repeupler un petit peu la France. Et du coup, c'est comment les marques se mettent à la place d'un utilisateur et utilisent toutes ces mêmes fonctionnalités. Donc, une présence optimale, c'est comment on organise et comment on construit sa présence sur son profil entreprise. Ouais. Donc, l'organique. Et est-ce qu'on utilise et est-ce qu'on crée du contenu de marque ou est-ce qu'on reposte de l'UGC, donc du contenu qui a été créé par ses utilisateurs. Ensuite, les stories et comment on mixe justement le contenu permanent et le contenu éphémère et raconter une autre histoire ou avoir d'autres points de vue. Le fameux, je suis sûre qu'on va parler beaucoup de stories aujourd'hui.
Ouais, on va en parler.
Et enfin, c'est comment on utilise plutôt les supports médias, donc la publicité, pour vraiment renforcer le message qu'on a envie de faire passer et surtout aller toucher des personnes qui ne sont pas forcément ses followers, mais qui sont dans notre audience.
À la différence de Facebook, pour le coup, même si c'est le même groupe maintenant, il y a quand même une visibilité naturelle. Enfin, je veux dire, il y a toujours cette visibilité naturelle qu'on n'a plus trop sur Facebook, mais qu'on a toujours sur Instagram. Donc, on peut complètement travailler en organique.
Ouais.
Sur Insta, en particulier sur les stories.
Tout à fait. En fait, ce qui se passe aujourd'hui sur Instagram, c'est que le comportement utilisateur est un peu différent de ce qu'on peut observer sur Facebook. Bien entendu, les gens vont passer du temps dans leur fil d'actualité, donc du coup, voir le contenu des personnes ou des marques qui vont suivre. Mais ils vont passer aussi du temps dans Stories. Stories, c'est une croissance énorme. Donc, c'est pour ça que c'est important pour une marque d'avoir ça en tête et de pouvoir penser à sa stratégie, dans Stories. Et ensuite, ces personnes-là, elles vont aussi aller sur l'onglet Explore. Aujourd'hui, c'est 100 millions de personnes tous les jours qui vont dans Explore pour aller découvrir du nouveau contenu ou pour faire des recherches. Et elles vont aussi sur les profils des utilisateurs ou les profils de marque, parce que du coup, ça leur permet de découvrir la grid et donc du coup, découvrir ce contenu organique et de suivre quelqu'un. C'est le seul moyen.
Et alors, j'ai plein de questions pour toi. La première, tu disais, c'est énorme les stories. Vous avez un chiffre ou une manière d'estimer comment ça a cru par rapport au feed ?
Oui, alors, faut se dire que Stories a tout juste un an, puisqu'on a sorti Stories en août 2016, donc on vient juste de célébrer les un an de Stories. Et en juin cette année, donc un peu moins d'un an, on a annoncé 250 millions d'utilisateurs tous les jours dans Stories.
Ouais.
C'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 50%, puisqu'on a 500 millions de personnes quotidiennement qui viennent sur Instagram, c'est-à-dire que 50% de nos utilisateurs aujourd'hui passent du temps dans Stories. Donc ça, c'est un chiffre assez incroyable. Pour nous, en fait, c'est même une surprise qu'on ne se ment pas. Je pense que nous-mêmes, en interne, on est assez surpris de l'explosion de Stories et de cette façon dont finalement les gens vont créer et consommer du contenu éphémère.
Mais d'ailleurs, tu le constates dans tes... Enfin, moi, en tout cas, je le constate dans mes usages perso. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ouvre Instagram, le premier truc que je fais, c'est pas redescendre mon feed, c'est de regarder les Stories.
Ouais. Bah, en fait, tu vas découvrir du contenu qui peut être un peu moins travaillé, mais un peu plus authentique.
Et qui est plus frais,
Et donc, du coup, coup, les gens, ça les intéresse. Il y a moins de pression à créer du contenu. Donc, tu as plus de gens qui créent plus de contenu. Mmh. Et donc, du coup, tu as un petit peu cette fraîcheur d'aller trouver des moments qui sont assez sympas, en tout cas, à regarder.
Et donc, vous avez vachement enrichi les stories. Vous avez lancé les sondages. Ça marche bien, les sondages. Il y a un gros usage aussi.
Mais... Oui, alors, les sondages, on a lancé ça il y a 2 semaines. Donc, c'est un petit peu une nouveauté. Donc, en fait, aujourd'hui, une marque ou un utilisateur, quand il utilise les stickers, on a cette fonctionnalité de faire un sondage. Donc, poser une question et avoir deux réponses. C'est la première fois qu'on teste un format interactif, en fait, dans cette expérience de Stories. Ouais. Pour l'instant, c'est un carton. Alors, je pense que...
Ouais, c'est 2 semaines, quoi.
Il y a 2 semaines. Je pense qu'on a tous été... En tout cas, si vous utilisez beaucoup Stories, peut-être tous été un petit peu...
Tenté.
Et puis, on en a vraiment vu beaucoup, beaucoup. Donc, ça peut commencer à... J'en sais rien, ennuyer un petit peu tout le monde de voir autant de sondages, mais parce que ça marche. Et je pense qu'un des messages très forts là, c'est qu'en fait, les gens ont vraiment envie de pouvoir interagir. C'est-à-dire que c'est plus seulement quelqu'un qui envoie un message, c'est comment l'audience qui le reçoit peut aussi donner une réponse. Donc pour nous, c'est des signaux très forts sur comment on peut développer aussi
une volonté d'interaction.
Exactement. D'autres utilisations de stories, d'autres stickers, d'autres façons d'interagir. Donc c'est un super enseignement. Et j'espère vraiment, en tout cas, que par la suite, on va essayer de continuer à enrichir, en tout cas, cette expérience.
Est-ce qu'il y a des marques qui utilisent bien les stories aujourd'hui, déjà ? Parce qu'en fait, on a bien vu, enfin, moi, je vois que les influenceurs, comme à chaque fois, montrent la voie. Et c'est vrai que les marques, on les trouve un petit peu à la traîne, ou en tout cas, elles n'ont pas forcément bien compris, ou elles sont peut-être trop brand-centric. Je ne sais pas s'il y a des super exemples de marques.
Si, alors, il y a des bons exemples. Et surtout, déjà, je dirais que les marques ne sont pas tant à la traîne que ça sur Stories, parce que sur le dernier mois, il y en a 50%. Enfin, les entreprises, en tout cas, qui sont présentes sur Instagram, qui ont créé une story sur le dernier mois. Donc, ça veut dire qu'elles ont compris quand même l'intérêt et l'importance de faire des stories. La deuxième chose, c'est qu'un tiers des stories les plus vues sont des stories de marques. Donc, tu as vraiment aujourd'hui des marques qui vont avoir un vrai focus à développer une stratégie pour stories et qui mettent beaucoup d'efforts à le faire. Donc, on va avoir 3 grosses tendances, en tout cas, sur les types de contenus que les marques vont créer. Les backstage, tout ce qui va être coulisses, événements, etc. Photoshoot. Tout ce qui va être tutoriel. Ouais. Énormément de marques qui, en fait, apportent de la valeur. C'est-à-dire que si je me connecte à la stories de la marque, au moins j'apprends quelque chose. Donc ça marche plutôt bien, parce que tu apportes... Les vidéos, c'est 15 secondes, mais en organique, tu peux mettre autant de contenu que tu veux. Ouais, donc tu peux faire 15-15-15, 10 fois si tu veux, tant que tu arrives à garder finalement l'attention pour que la personne reste concentrée sur ta stories. Ensuite, tu vas avoir les stories où c'est plutôt des interviews. Et ça marche plutôt bien aussi. Poser une question et tu as tes égéries ou les gens dont, je sais pas, ça peut être tes employés aussi qui répondent à certaines questions. Donc ça marche plutôt bien, parce que tu as une interaction quand même. Et enfin, ce qu'on voit moins, mais par contre qui commence à cartonner, c'est justement ces marques qui arrivent à réfléchir sur comment encourager l'interaction avec les utilisateurs. Donc le tap-tap-tap pour en fait découvrir l'histoire en consommant ces différents contenus. Donc je te donne un exemple. Tu as Azos qui a fait un exemple canon où en fait ils ont uploadé peut-être 10 photos d'une chaussure avec des angles, des prises de vue différentes, donc différents. Et c'est l'utilisateur, en tapant à droite ou à gauche, qui fait tourner la basket. Ah. Et donc, du coup, c'est toi qui découvres. Donc, en fait, tu as ce côté où je ne te montre pas seulement mon produit, je te demande d'interagir avec, et c'est toi qui joues, c'est toi qui le découvres. Donc ça, on le voit de plus en plus. Tu as Bacardi aux US qui avait fait aussi une expérience de DJ où ils ont recréé en fait chaque contenu égale un son, et en fait c'est toi qui mixes. Tu tapes à droite ou à gauche et tu mixes dans cette expérience.
En fait, c'est génial pour des gens créatifs.
Mais c'est un vrai, enfin c'est une, j'allais dire un vrai playground, parce que je fais du franglais.
Ouais,
mais
c'est
un vrai terrain de jeu.
Voilà,
c'est un vrai terrain de jeu, si tu veux, aujourd'hui, à la fois pour les créatifs, les agences créa, et aussi les marques. Ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est l'organique pour le moment. Et du coup, c'est aussi comment tu viens après avec tes campagnes payantes. Parce que dans Story, c'est un moyen d'aller toucher justement pas seulement tes followers, mais ta cible qui t'intéresse. Mm-hmm. Et du coup, là, c'est une campagne qui ne va pas être une campagne éphémère, puisque tu décides d'une date de début et d'une date de fin. Par contre, elle vit dans un espace éphémère. Ouais. Donc ça change aussi la façon dont tu la crées. Ça change par exemple si tu veux renvoyer du trafic vers ton site internet.
Ouais.
Cette fois-ci, tu dois encourager le swipe up, le fait d'envoyer ton pouce vers le haut. Pour pouvoir aller sur le site. Ouais, ouais. Exactement. Et donc du coup, tu as plein de stratégies qui sont mises en place par justement les agences créa et les marques pour encourager ce nouveau geste qui est assez nouveau, le swipe up, exactement.
Cool. Alors j'ai une deuxième question pour la grid, parce que tu en parles quand même beaucoup. Est-ce qu'une marque, elle est censée faire très attention à cette grid, justement ? C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait avoir tendance à penser que finalement, les gens, ils consomment donc les stories et puis après, ils consomment le feed. Mais dans ce que tu décris, ou en tout cas, à force de parler de cette grid, tu dis, ben, finalement, les gens, ils consomment quand même pas mal cette grille au tout début, quand tu ne connais pas le compte Instagram.
Ouais.
Est-ce que c'est important ? Est-ce que cette idée, parce que j'ai vu quand même pas mal de gens faire ça, enfin j'ai vu pas mal de stratégies différentes, mais des gens qui, parce qu'il y a plein d'outils aussi avec Instagram qui déconstruisent complètement une image en plein image, ce qui fait que quand tu regardes, ça te fait une grande image sur plein de machin. Je connais des blogueuses qui utilisent des outils, par exemple Didi, je sais qu'elle utilise ça, où elle regarde en amont via un outil à quoi va ressembler la photo sur sa grid avant de la publier. Donc il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Est-ce que c'est vraiment essentiel, cette histoire de grid ?
Alors, en fait, je dirais que c'est essentiel si tu cherches à essayer de croître une communauté, parce que soit tu as les gens qui sont fans de ta marque et qui, dans tous les cas, vont te suivre, quoi que tu postes, en tout cas, sur ta grid. Mais pour convaincre les autres d'avoir du contenu qui, chaque jour, vont arriver dans leur fil d'actualité, il faut que tu aies quelque chose à leur proposer. Donc les gens vont venir sur ton profil, c'est le seul moyen qu'ils ont de voir ce que tu vas leur proposer pour accepter de te suivre ou pas. Donc elle reste quand même importante. Maintenant, on voit à peu près, je veux dire, allez, trois grosses stratégies un peu émerger en tout cas sur la façon dont tu crées ton contenu pour ta grid. La première, tu crées du contenu de marque, donc c'est vraiment toi qui maîtrises de A à Z la façon dont tu construis ta grid et ce que tu veux apporter à ton utilisateur. Donc tu fais vraiment du brand content où tu crées ton contenu. Assez classique, même si tu peux reposter 2-3 posts, je ne sais pas moi, d'influenceurs par exemple, ou des choses comme ça. Mais je veux dire, les marques de luxe ou Adidas, ils sont très forts pour avoir une grid hyper, hyper sympa avec du contenu de qualité qu'ils ont développé eux-mêmes.
Qui sont des marques sympas aussi.
Exactement. La deuxième, c'est comment tu vas créer une grid qui finalement, tu n'as pas envie de passer... Enfin, tu n'as pas envie de passer trop de temps et d'avoir trop de moyens à investir sur la création de ce contenu-là. Donc, c'est comment tu encourages finalement ta communauté ou tes clients à créer du contenu pour toi.
Ouais.
Le meilleur exemple qu'on a sur le marché français, c'est Undiz. La marque Undiz, du groupe Etam, ils ont un compte où ils ont plus de 300 000, je crois même maintenant 400 000 followers, où en fait, ce sont leurs clientes qui vont utiliser le hashtag Undiz Family. Donc, ils ont créé en fait ce hashtag pour leurs clientes où c'est surtout des femmes, donc ces charmantes jeunes femmes vont en magasin avec leur téléphone, enfin avec leur application Instagram pour montrer « Ok, je vais acheter ce produit de Undiz ». Elles achètent le produit, elles rentrent chez elles, elles se prennent en photo, elles taguent Undiz et Undiz les reposte.
Et en comment fait, ça se fait ? Enfin, moi, il y a un truc qui m'échappe. Alors, en particulier pour les sous-vêtements. Comment tu fais pour que les gens se mettent en... Parce qu'en fait, toutes les marques ont envie d'avoir du GC. Enfin, concrètement, ça te génère de l'end media value, etc., etc. Donc, toutes les marques rêvent de ça. Mais comment ils ont réussi à craquer le truc ? Enfin, qu'est-ce qui fait que les gens le font ?
En plus, Undiz, bien sûr, il y a beaucoup de sous-vêtements, mais c'est aussi des t-shirts.
Ah, oui,
ils mettent d'autres produits en avant, bien entendu. Je pense que ce qu'ils ont réussi, c'est qu'en fait, ils ont... toute leur stratégie repose sur la célébration de leurs clientes.
D'accord.
Célébration de la communauté.
Ouais.
Et en fait, toutes leurs clientes sont leurs ambassadrices. Et aujourd'hui, sur Instagram, tu as énormément de personnes qui ont des comptes publics. Et de la même manière qu'une marque a envie d'avoir plus de followers, par exemple, tu as plein de personnes,
bien sûr,
comme toi et moi, qui ont envie d'avoir un peu plus de followers.
Mais, mais comment je fais pour avoir plus de followers?
Et bien, du coup, justement, en fait, ces clientes-là, en fait, elles jouent le jeu. Et pour elles, le jour où en fait, Undiz les repostent, les regramme sur leur compte Instagram, et ben du coup, c'est un genre de célébration. Elles sont mises en avant, donc elles deviennent ambassadrices de la marque. Et ça marche énormément. Et donc, en fait, elles ont vraiment. Enfin, Undiz a vraiment réussi à créer une communauté de clientes hyper forte.
C'est génial.
Où, enfin, on a rencontré la directrice digitale qui est vraiment géniale, qui est à la base de cette stratégie, qui nous expliquait que même quand ils ont des produits qui ne se vendent pas très bien en boutique et qu'ils arrivent à trouver justement une personne qui a posté un contenu avec ce type de produit, ils arrivent à utiliser ce contenu-là en magasin, bien entendu en demandant l'acceptation auprès de cette personne-là et à générer, bon, elle nous a donné un exemple, plus 40% de ventes du coup en boutique wow. grâce à un post Instagram. Donc on arrive à voir l'effet de comment finalement le fait de célébrer ta communauté peut avoir un impact directement business.
Et alors c'est marrant parce que moi pour parler, alors moi c'est vrai que je travaille quand même pas mal avec des marques plutôt beauté, plutôt luxe, mais je vois quand même pas mal de marques qui ont... Elles adorent avoir du GC, par contre, elles trouvent les contenus en général plutôt moches. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, tu as pas mal de marques qui travaillent sur, bah, typiquement Glossier ou autre, qui travaillent sur le, complètement l'expérience d'unpacking, qui fait qu'ils facilitent, facilitent pour que les gens fassent une jolie photo au final. Mais c'est vrai que les, gens, enfin, les marques aiment bien avoir de l'UGC, mais elles n'aiment pas trop le poster parce qu'elles le trouvent moche ou elles ne trouvent pas très qualitatif. Moi, j'avais eu cet exemple-là avec Cartier, entre autres.
Alors, je pense que Cartier, en plus de ça, ils ont des, ils mettent la barre assez haute sur la qualité de leur contenu. Enfin,
évidemment.
Je vois tout à fait la marque logique. et leur façon de poster du contenu. Donc, je peux entièrement le comprendre. Et puis, le but, c'est pas de ne pas être authentique aussi avec
tes valeurs.
Voilà, ces valeurs de marque et de la façon dont on veut être représenté, en tout cas sur la plateforme. Mais la marque peut être aussi une force moteur en fait de montrer quel genre de contenu elle a envie que la communauté crée. Donc il y a plein de moyens de le faire et justement le fait de commencer à reposter certains types de contenu ou en tout cas d'avoir un espace où on explique la logique et par exemple on renvoie vers le site internet pour en savoir plus sur le type de contenu que la marque cherche, ça peut très bien être un moyen en tout cas d'encourager et être sûr.
Ça peut être des moyens simples. Enfin, je repense à Ice Bucket Challenge, typiquement, bon, qui n'est pas spécifiquement Instagram, mais, mais qui est un moyen extrêmement... En fait, on t'explique de manière très simple comment générer du contenu. Et du coup, naturellement, les gens le font parce que c'est extrêmement facile, en fait.
Exactement. Ouais. Ça peut être, tu vois, il y a plein de hashtags avec des styles photographiques qui existent sur Instagram. Tu vois, par exemple, Things Organized Neatly, où tu mets tes objets hyper bien rangés, par exemple, sur le sol et tu fais une photo du dessus. Bon, tu vois, tu peux imaginer avoir un certain concept aussi et t'encourages ta communauté à créer ce type de contenu.
Et alors justement, parce que tu fais le pont sur les hashtags, est-ce qu'il y a un usage optimal des hashtags, le nombre de hashtags, etc. Moi, j'ai vu pas mal d'études, j'ai vu aussi beaucoup de gens en utiliser 10 millions en se disant ben, forcément quand j'utilise des hashtags, puisque les gens cherchent par l'onglet Explore, ça va forcément m'attirer des gens. Est-ce qu'il y a un usage optimal de ces hashtags ou...
Ouais, alors je réponds à ta question des hashtags et avant je finis sur le troisième point parce que sinon tu vas me tuer sur la troisième stratégie. Mais c'est juste parce que du coup je pense que c'est intéressant de voir aussi la troisième façon que tu as d'avoir une présence en tout cas sur Instagram pour une marque qui répond un petit peu à comment tu fais ta grid où tu postes 9 photos ou 18 photos. Aujourd'hui tu as des marques qui, moi j'encourage pas les marques à avoir des grids comme ça où tout est lié parce que c'est insupportable pour les utilisateurs quand ils reçoivent
dans leur grid
les 18 photos. C'est insupportable. En revanche, tu as des marques qui aujourd'hui n'ont pas l'envie d'avoir de l'organique à créer tous les jours ou toutes les semaines. Donc du coup, ils vont juste avoir un espèce de compte, j'appelle ça un compte statique, où en fait, ils vont poster dès le départ sans avoir de followers 9 photos ou 18 photos qui représentent justement une image. Ils ne touchent plus à leur grid. Et en fait, ça devient leur compte et leur présence sur Instagram. Et ensuite, ils vont juste utiliser cette présence-là pour supporter des campagnes médias. Donc ils utilisent vraiment Instagram que comme une plateforme média à part entière.
Tu peux le faire aussi quand tu lances une marque, par exemple, et que pour l'instant, tu n'as pas de followers.
Exactement. Et par exemple, je te prends l'exemple de Rostar, quand ils ont lancé leur nouvelle rame de train, ils ont fait une campagne marketing qui s'appelait La vie on board. Ils ont créé un compte Instagram dédié. Et en fait, tout leur compte Instagram, c'est une grid statique où ça représente un train et toute la vie que tu peux avoir bord des trains Rostar. Il n'y a pas de vocation à faire grossir une communauté, si tu veux, sur ce compte-là. Par contre, c'était la base de toute leur campagne marketing où derrière, tu as eu toute l'activation média. Donc, tu vois, tu as ces trois stratégies-là qui te permettent en tout cas d'exister sur Instagram. Ouais. Du coup, pour les hashtags.
Ouais. Après, j'en ai une autre. Du coup,
Donc, pour les hashtags, la stratégie pour les hashtags. Je ne dirais pas qu'il y ait une stratégie absolue pour les hashtags. Tu as des marques qui n'ont pas besoin de hashtags. Elles sont assez populaires pour recruter et pour être sûr que les gens veulent les suivre, en tout cas sur Instagram. Pour les plus petites marques, je dirais peut-être plus pour les petites, enfin TPE, PME. Qui a envie de se faire découvrir, c'est comment tu vas chercher plutôt des hashtags qui sont vraiment liés à la communauté que tu as envie de cibler. Et ça, c'est un petit travail un peu minutieux que tu es obligé de faire directement sur la plateforme où tu vas aller suivre les personnes qui, à ton, à, à ton avis, sont les plus proches et représentatifs des gens que tu veux cibler et de voir quels sont les hashtags qui marquent. Je te donne un exemple pour que ça puisse illustrer. Tu veux cibler la communauté végane. Si tu utilises le hashtag végane,
T'es noyé.
C'est un hashtag qui est tellement générique où t'as tout et n'importe quoi qui est posté justement pour essayer de toucher cette communauté que finalement tu touches personne.
Ouais.
Par contre, si tu utilises le hashtag WhatVeganEat, là t'as le hashtag qui est utilisé par la communauté vegan et qui du coup te permet de rentrer en contact avec cette communauté-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de...
recherche. En fait.
Exactement, il n'y a pas d'outil miracle. C'est-à-dire que tu es obligé de faire ce petit travail-là minutieux, mais tant mieux parce que du coup, ça
limite,
te permet... Exactement.
Ouais, c'est-à-dire ceux qui font bien leur homework, les bons étudiants.
Et c'est les bons étudiants. Et ensuite, après, tu as le même exemple que Undies. À la limite, tu peux, pour ta marque, en tout cas, créer un hashtag spécifique pour ta marque pour encourager la création de contenu, soit autour d'un événement, soit autour de ta marque. À toi de voir, mais c'est l'autre façon
après, évidemment, je pense que Undies, enfin, je ne les connais pas, donc je peux pas dire, mais je pense que l'idée de la famille, ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont créé le hashtag. Et à mon avis, il y a plein de valeurs qui sont derrière et la manière dont ils reçoivent les gens en boutique, etc., qui changent. Enfin, j'imagine. Hein,
Bien sûr, mais en tout cas, ça a été un bon moyen pour eux.
Non, je veux juste te dire à tous les gens qui nous écoutent, c'est pas parce que vous allez créer un hashtag machin truc family que d'un coup tout le monde va republier, quoi, parce que ça marche pas comme ça malheureusement.
Non, et d'ailleurs ils expliquent assez bien sur leur profil comment participer. Tu vois, ils expliquent quand même pour pas que ce soit t'as juste le hashtag comme ça qui vit et tu ne comprends pas comment l'utiliser. Donc ils sont assez prescripteurs sur la façon dont tu dois utiliser en tout cas ce hashtag.
Et alors par rapport à Eurostar, je pense que ça va être ma dernière question parce que le temps passe, mais est-ce que vous recommandez chez Instagram justement des comptes de campagne, des comptes éphémères, parce que ça peut être aussi dangereux, enfin pour une marque de donner, enfin pour vous tant mieux j'imagine, mais d'un point de vue marque, de mettre beaucoup d'énergie pour qu'un compte émerge et puis d'un coup après puisque c'était une campagne qui disparaisse.
Non, alors t'as raison, moi je le recommande pas spécifiquement, surtout si ça demande énormément d'efforts pour quelque chose que tu ne capitalises pas après. Mon exemple c'était plutôt de dire t'es une marque, t'es pas prête à créer du contenu organique tous les jours, tu peux très bien avoir quand même une présence sur Instagram avec un compte qui est statique, mais par contre tu t'en sers pour faire des stories de temps en temps si t'as des choses à communiquer et lancer tes campagnes médias si t'en as envie. Mais t'as raison, je ne recommanderais pas en tout cas à une marque à essayer de créer des comptes qui finalement ne vont vivre qu'une fois, c'est beaucoup trop d'énergie.
C'est ça.
Je pense qu'on a plus d'opportunités à travailler avec eux sur d'autres stratégies qui vont leur apporter quelque chose dans le temps que de créer en tout cas ces comptes là qui ne servent qu'une fois. Et puis même pour les utilisateurs, parce que je pense toujours moi utilisateur aussi, c'est qu'à un moment donné, tu t'abonnes à un compte, il n'y a plus rien qui se passe, où tu vois énormément de choses émerger. Avant, tu avais des comptes en fait, tu avais des campagnes créatives où ça était un peu la chasse au trésor sur Instagram. Donc tu ouvrais un compte et puis ce compte-là te t'emmenait à l'autre compte, etc. Ça, on a arrêté, c'est même plus dans nos guidelines, policy, j'allais dire, mais c'est pas le mot. Encore une fois, dans nos règles d'utilisation.
Voilà.
D'utilisation. Donc, tu vois, c'est par exemple quelque chose qu'on a arrêté de faire et de recommander parce que c'était une mauvaise expérience pour les utilisateurs d'accéder à des comptes qui ne vivent que temporairement. Donc, non.
Cool. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question que je pose à chaque fois. T'as déjà écouté le podcast ?
Ouais, bien sûr.
C'est bien, t'as fait ton travail.
J'ai fait mon travail.
Ok, donc ce podcast s'appelle Blanc. Et l'idée, c'est de savoir si tu devais claquer la porte à quelque chose, à quoi tu claquerais la porte aujourd'hui ?
À quoi je claquerais la porte aujourd'hui ? Alors, comme je suis fan de ton émission et de ton podcast, et que j'ai écouté ce charmant ou fameux Brian Morisset, je dirais Vlan à l'engagement, je le copie, je dirais exactement la même chose. Et une des raisons pour laquelle je suis assez d'accord aujourd'hui avec ça, c'est que l'engagement, déjà, première chose, je pense que les marques mesurent tout et n'importe quoi, en tout cas, sur l'engagement, ou en tout cas ne mesurent et ne favorisent que le like, le fait d'aimer un post ou de le commenter, et ne prennent pas en considération toutes les autres choses, comme le fait de voir une vidéo, même si c'est 3 secondes, mais dans un environnement mobile, passer 3 secondes sur un contenu, c'est énorme et c'est souvent plutôt signe d'un engagement assez fort, plus fort que seulement un like.
Parce qu'un like, ça peut être automatique.
Un like, c'est automatique. Tu peux passer moins d'une seconde sur une photo et juste liker parce que, je sais pas, il y a un truc visuellement qui t'a plu, tu likes. Mais le message de la marque n'est pas du tout passé, par exemple. Donc, 3 secondes sur une vidéo, tu es capable de faire beaucoup plus. Et c'est surtout qu'il y a des likers Et il y a des gens qui consomment tes contenus, qui ne likent pas, mais par contre qui seront tes clients derrière.
Ouais.
Et toute cette majorité silencieuse qui n'a pas ces actions-là sont mais complètement oubliées, alors que c'est sûrement ces personnes-là qu'on a envie de prendre en compte. Donc je dirais vraiment un volant à l'engagement, en disant que ce n'est pas une métrique, en tout cas, que les marketeurs aujourd'hui devraient... passer autant de temps dessus,
ouais,
parce que ça devient en fait la... Je dis pas que c'est pas important,
enfin
que
sûr.
Tu dois pas le prendre en compte, mais aujourd'hui c'est souvent la métrique majoritaire qui est prise en compte quand on parle des réseaux sociaux ou de plateformes digitales. Et ça, non, je mets un gros volant là-dessus.
Cool, merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté Volant, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.